son entrée. Tandis que Madame Verdurin, montrant des roses qu'il avait envoyées le matin, lui disait « Je vous gronde » et lui indiquait une place à côté d'Odette, le pianiste jouait, pour eux deux, la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Tout au loin, d'une couleur autre, dans le velouté d'une lumière interposée, la petite phrase apparaissait, dansante, pastorale, intercalée, épisodique, appartenant à un autre monde. Elle passait à plis simples et immortels, distribuant çà et là les dons de sa grâce avec le même ineffable sourire. Mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Et même, souffrant de songer au moment où elle passait si proche et pourtant à l'infini, que tandis qu'elle s'adressait à eux, elle ne les connaissait pas, il regrettait presque qu'elle eût une signification, une beauté intrinsèque et fixe, étrangère à eux, comme en des bijoux donnés, ou même en des lettres écrites par une femme aimée. Nous en voulons à l'eau de la gemme et aux mots du langage de ne pas être faits uniquement de l'essence d'une liaison passagère ou d'un être particulier.
Il se produit en fait comme un déplacement de la jalousie de Swann, non plus seulement vers Odette, mais même vers la musique.
Ah, vous diriez ça. Parce qu'à l'instant du passage en question, du passage qu'il est chez les Verdurin, il s'ennuie un peu parce que c'est quand même pas... Il a quand même vu mieux, Swann. Hein. Donc il est là par accident, hein, chez les Verdurin. Il est là parce qu'il est amoureux d'Odette et que Odette trouve les Verdurin formidables. Donc il est là par accident, Swann, et il expose son génie mondain au snobisme de ces grands bourgeois. Swann est là par accident et à l'intérieur de ce monde médiocre, infiniment médiocre des Verdurin, c'est-à-dire ce monde d'envieux, se déploie comme un miracle, comme une hypothèse, cette petite phrase qu'il entend, car les Verdurin savent accueillir les musiciens, savent recevoir les musiciens et savent entendre leur génie propre.
Mais tout de même, Raphaël, il paraît jaloux. Peut-être c'est plutôt de la possessivité et que la musique est une beauté que d'autres puissent percevoir et que d'autres puissent apprécier, et pas seulement qu'elle soit pas justement seulement l'hymne national de leur amour.
Ah, peut-être, peut-être. Alors plus que d'une jalousie, l'expérience d'une dépossession. En même temps, Swann est assez vite rassuré quand il écoute la petite phrase. Et qu'il y a des gens qui l'écoutent autour de lui, puisqu'il l'écoute rarement seul, sauf quand c'est Odette qui le joue très mal d'ailleurs pour lui. Il est assis à côté d'une dame un jour, je crois, qui dit « Oh, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est fort ! J'ai jamais rien entendu ni rien vu d'aussi fort depuis les tables tournantes. » Et là, Swann est tout de suite rassuré, parce qu'il comprend au fond que le bonheur qui est le sien, la félicité qui est la sienne, n'est en un sens que la sienne, quel que soit l'univers où il se trouve d'ailleurs, hein, que l'on soit chez des connaisseurs snobs, comme c'est le cas chez les Verdurin, ou chez des ignorants bien élevés, comme c'est le cas dans la compagnie éventuelle parfois du baron de Charlus. De toute façon, l'espèce de félicité artistique que Swann ressent à l'écoute de la petite phrase n'est pas menacée par le mauvais goût d'autrui. Mais en fait, ce qui m'a gêné dans l'hypothèse de la jalousie, Paola, c'est que on est au moment du passage qu'on vient d'entendre, donc que Valérie Lang a lu pour nous, à l'instant de ce passage-là, Swann n'est pas encore jaloux. Il l'est, mais ce sont les premières atteintes de la jalousie. La jalousie est naissante chez lui. Après, elle prendra toute la place. Hein, et les feux tournants de la jalousie guideront ses gestes, ses pensées, l'empêcheront de dormir jusqu'à ce qu'il résolve la question une fois pour toutes en cessant d'aimer sa femme, c'est-à-dire en l'épousant. Mais avant cela, Swann souffre mille morts. Et on est là vraiment au tout début de la jalousie. C'est pour ça que le mot de jalousie me gêne. Et en même temps, elle semblait connaître, dit Proust, la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. C'est comme la préscience, propre au bonheur d'ailleurs, de l'achèvement du bonheur. On n'est jamais heureux sans imaginer le moment où on cessera de l'être. Le bonheur est une passion triste. Et c'est ce que Swann éprouve avec cette petite phrase.
Et Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement.
Et voilà, du désenchantement. Le désenchantement qui occupe dans l'économie générale de la recherche du temps perdu une place tout à fait importante. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la structure de la recherche, vous avez du côté de chez Swann, qui est le premier volume de la recherche, et à l'intérieur du côté de chez Swann, au milieu, il y a un amour de Swann, dont l'action se passe 20 ans avant la naissance du narrateur. Et détermine de façon magique, ce que sera la vie du narrateur ensuite. Et on le comprend bien plus tard, car l'amour que Swann éprouve pour Odette est donc l'aversion concentrée de l'amour que le narrateur éprouvera pour Albertine. Et il y a toute une série de points communs entre Swann et le narrateur, sauf que le narrateur devance ou surmonte un certain nombre d'impasses où Swann s'échoue, de sorte que le narrateur, lui, devient écrivain quand Swann cesse de l'être.
C'est ça, c'est la différence entre les deux. La différence majeure entre les deux, c'est que Swann reste seulement un amateur. Il ne devient pas artiste.
Alors, Swann ne devient pas artiste. Swann n'a pas la... Il a tout de l'artiste. Il a tout de l'artiste.
Mais il a la sécheresse de la vie.
Est-ce que c'est la sécheresse de la vie? Je ne sais pas. Il a tout de l'artiste. Il a sacrifié son œuvre à sa vie, peut-être. C'est une banalité de le dire. Il y aurait 10 émissions à faire sur les différences infimes et considérables entre Swann d'un côté et le narrateur de l'autre. C'est pas l'objet là, parce que ça nous emmènerait trop loin. Mais une petite remarque, tout simplement. Swann a un tempérament artistique, par exemple, c'est celui qui ne cesse de voir des portraits quand il regarde quelqu'un. Il voit Bloch, le copain du narrateur, il dit « Ah, c'est le portrait de Mahomet II par Bellini, c'est étonnant !»
C'est Zéphora de Botticelli.
Odette, absolument, c'est Botticelli. Tel autre, c'est la charité de Giotto, et ainsi de suite. Et il ne cesse comme ça de se représenter, de picturaliser les individus qu'il voit, c'est-à-dire de voir des tableaux quand il voit des êtres réels. Ce qui n'est pas un déni de réalité, au contraire. C'est une exaltation de la réalité. C'est qu'il rend la réalité artistique. Il ne lui tourne pas le dos. On comprend avec la dilection, l'amateurisme au sens fort, c'est-à-dire l'amour de Swann pour l'art, c'est-à-dire pour le réel, à quel point l'amour de l'art ne nous détourne pas du réel, mais au contraire, nous rend attentifs aux merveilles qu'il dissimule à des yeux inexperts. Mais là où, dans ce passage, on a la préscience de ce que sera le narrateur, enfin du lien entre Swann et le narrateur, c'est que la petite phrase semblait connaître la vanité d'un bonheur dont elle montrait la voie. Ça, c'est Swann. Swann sait, à l'avance, la vanité des activités auquel il consacre le plus clair de son temps et dont l'exercice ferait la voix qui sera celle ensuite du narrateur qui saura, lui, se déprendre au fond de son moi empirique pour accéder à ce qui lui échappe et donner le jour, donner la chance, donner sa chance à ce qui lui échappe. Le sommet de cela étant le Vermeer. Swann passe sa vie, trépasse sa vie, si j'ose dire, à faire une étude sur la vue de Delft, de Vermeer. Bon, c'est devant la vue de Delft que meurt Bergotte, en se disant qu'il est passé à côté de son œuvre. Et la vue de Delft est également le tableau favori du narrateur. Mais ils ont tous les trois, Swann, Bergotte et le narrateur, une façon de poser leurs yeux sur ce tableau qui, chez Swann, prend la forme d'un travail inabouti, chez Bergotte, la forme d'un regret, et chez le narrateur, la lumière qui est celle du tableau parvient finalement à éclairer les petites loupiottes qui étaient celles de son enfance quand il était à Combray, c'est-à-dire qu'il fait du tableau le meilleur usage. Il fait avec l'art dont il dispose, c'est-à-dire la réalité dont il dispose, la matière de l'art à venir qui est le sien. Le narrateur parachève l'entreprise inaboutie de Swann, un peu moins inaboutie de Bergotte, mais qui n'empêche pas quand même l'écrivain de mourir avec un regret. Et la petite phrase se métamorphose comme ça, de Swann au narrateur, justement, en passant de l'amertume de l'inabouti, qui est au fond l'amertume du narrateur devant les clochers de Martinville. Il ne sait pas pourquoi ça l'émerveille. Il a besoin de les décrire, mais il ne sait pas pourquoi. Il a besoin de les conserver, mais il ne sait pas pourquoi. Ou le narrateur devant la petite Madeleine. Il ne sait pas pourquoi il est ému comme ça par la petite Madeleine. Il ne comprend pas. Il a besoin de le dire, mais il ne comprend pas. Swann en est à cet état d'incrédulité, en fait. Swann, c'est le narrateur, c'est l'enfance du narrateur, en vérité. Et le narrateur devenu adulte, c'est-à-dire devenu artiste, ira plus loin que Swann, auquel il est familialement relié hein, dans l'architecture de la recherche, hein, puisque Swann est le voisin des grands-parents du narrateur, c'est le mari d'Odette. Odette, c'est la femme en rose que le narrateur croise chez son grand-oncle Adolphe. Avec Odette, il a une enfant, Gilberte, dont Swann tombe amoureux avant d'aimer Albertine. Gilberte finira par épouser Saint-Loup, qui sera le meilleur ami du narrateur, etc., etc. C'est dire à quel point Swann occupe une place essentielle dans l'économie, dans la vie du narrateur. Mais il est vraiment celui qui... C'est Moïse, Swann. C'est celui qui montre le chemin. Il lui est interdit de franchir le seuil. C'est Zarathoustra. C'est le prophète, si vous voulez. D'ailleurs, quand Swann est atteint d'un cancer et qu'il vieillit, le narrateur, dans un texte tout à fait antisémite, décrit Swann comme retrouvant l'allure antique des prophètes. Décrivant son nez qui s'allonge, etc. C'est un texte épouvantable, magnifique d'ailleurs, mais très difficile à lire. Mais Swann, c'est le prophète. C'est le prophète, c'est-à-dire c'est celui auquel est interdit d'entrer dans les chefs-d'œuvre qu'il désigne, que son existence tout entière désigne au narrateur qui lui sera capable de franchir le seuil.